France Musique.
Bonjour à tous, bienvenue dans le magazine live de France Musique, c'est tous les mercredis, aujourd'hui avec des voyages à travers le temps, l'espace bien sûr, mais le temps surtout. Nous commencerons presque au XIIIe siècle et finirons quasiment au XXe, et tous les siècles seront visités. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? On va se balader dans le temps dans cette émission avec mes invités du jour, l'ensemble d'Etchelis, Thibaut Noali et ses troupes des accents. Et pour commencer, merci d'accueillir à sa guitare Gabriel Bianco. Gabriel Bianco à la guitare dans cette pièce de Francesco da Milano, Fantasy, La Campagna, qui est aussi présente sur son dernier disque. Bonjour Gabriel Bianco.
Bonjour.
C'est une musique merveilleuse que vous venez de nous jouer là, qui a l'air de se développer avec le temps finalement. Ça commence comme une méditation et puis tout d'un coup ça devient pas fou vers la fin, mais une exubérance tout d'un coup.
Mais c'est un petit peu, voilà, c'est les Ricercar ou Fantasia de da Milano, c'est un petit peu l'ancêtre de la fugue. C'est-à-dire qu'on a effectivement un thème qui entre en imitation et après se développe des sortes de variations ou diminutions, voilà, où, bon, c'était un grand virtuose, hein, donc il aimait, voilà, pouvoir montrer un petit peu ce qu'il savait faire avec le luth.
C'est ça, le luth, parce que c'était pas la guitare, et c'est d'ailleurs l'une des particularités de votre programme discographique qui est paru il y a peu, quelques jours à peine, le 2 juin, sous le titre Capricci, c'est sur le label Ad Vitam, et vous nous proposez justement des pièces qui sont beaucoup de transcriptions, mais d'instruments très différents. Bon, il y a des pièces originales pour la guitare, mais la transcription du luth, et tout à l'heure on verra du clavecin aussi.
Oui, alors là il s'agit vraiment voilà, juste d'une transcription, puisque ça marche très bien. Il n'y a pas vraiment besoin d'arranger beaucoup. J'ai repris la tablature originale et je l'ai effectivement joué à la guitare. Alors évidemment ça change un petit peu la sonorité, mais voilà, j'utilise justement un capodastre pour retrouver un petit peu le diapason original et puis avoir une sonorité un peu différente de la guitare classique.
Giulio Regondi, je crois qu'il a quelques trucs à nous raconter sur lui et sur sa vie. Gabriel Bianco, sur ce compositeur-là. Alors, on va faire un bond dans le temps, comme il nous le racontera tout à l'heure. Mais voici cette première étude. Alors, cette fois-ci, c'est une pièce originale qu'on retrouvera également sur le disque de Gabriel Bianco, Capricci. Je vous le rappelle, vous écoutez France Musique. Et le studio 107, il est en train de s'accorder un petit peu parce que figurez-vous qu'il y a ce qu'on appelle une scordatura. Vous savez pas ce que c'est? Il vous le dira juste après. De charme, mon Dieu, dans cette première étude de Giulio Regondi, joué par Gabriel Bianco. Alors, vous avez commencé à me raconter un peu tout à l'heure, Gabriel, la vie de monsieur Regondi, qui était au départ un enfant prodige, c'est ça?
Oui, bah, ça a été un guitariste très très jeune, très très fort, et son père l'avait bien compris. Donc il l'a un petit peu exhibé à travers l'Europe, et bah, le pauvre Gondi, une fois qu'il avait 18 ans, il n'était plus aussi jeune, et donc c'était beaucoup moins impressionnant, et son père l'a abandonné. Donc du coup il s'est réfugié à Londres, et là il s'est mis à composer donc beaucoup de répertoires pour la guitare, notamment des études qui sont, je pense, les premières grandes études de concert pour la guitare, donc voilà la numéro 1.
Ça date de quelle époque, pardon, tout ça ?
Oh, c'est le 19e, hein. C'est un petit peu plus, bon, la guitare, ouais, c'est un petit peu plus tardif que, c'est pas une génération de 1810, pardon, c'est plutôt 1820. Mais voilà, c'était, il jouait sa musique, hein, donc il faisait aussi du concertina, qui est une sorte d'accordéon, il a écrit pas mal d'œuvres, voilà.
Donc, victime d'un père indigne, ça c'est une chose, écrivain, enfin, compositeur, pardon, d'études pour la guitare, études, alors c'est curieux, parce que ce que vous jouiez tout à l'heure, ça avait l'air tellement facile sous vos doigts, je me demandais où était la difficulté spécifique.
Ça n'est pas tant que ça, hein, en réalité. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des études de concert qui sont quand même à but musicaux. C'est-à-dire qu'il y a toujours une petite spécificité technique. Voilà, le compositeur développe dessus, comme on peut entendre notamment dans les études de Chopin, voilà, dans des chansons que décodées, que je pense que les gens connaissent mieux que Regondi.
Alors, je ne connaissais pas avant que vous arriviez avec ce disque-là, Gabriel Bianco. Vous venez d'où, vous d'ailleurs, tiens?
Je suis parisien d'origine, un vrai de vrai.
Et musicalement, conservatoire, c'est ça ?
Le CNSM de Paris, voilà, j'ai eu mon prix en 2008, donc il y a quelques années déjà.
Et vous vous lancez dans une carrière donc soliste, et puis pas seulement soliste, on va le voir tout à l'heure, avec évidemment le quatuor Eclis, dont vous nous parlerez un peu plus tard. Mais là voici donc, on l'a quasiment promis tout à l'heure, Domenico Scarlatti, transcription du clavecin. Je signale que après le premier morceau et puis après le second, là vous avez un petit peu réaccordé, remis des scordatures, il faut toujours nous rappeler ce que c'est, cette de choses.
Mais c'est-à-dire que évidemment on peut jouer sur l'accord de la guitare pour avoir différentes possibilités techniques et bon, dans la première pièce j'avais mis un capodastre, là j'avais un accordage normal et là j'ai juste mis la dernière corde en ré, donc pour faciliter et pour pouvoir tout simplement la jouer dans la tonalité originale.
Tonalité originale qui est donc celle de cette sonate Kirkpatrick 53 de Domenico Scarlatti. Gabriel Bianco est chez nous aujourd'hui en live, mais il est aussi en disque, je vous le disais tout à l'heure, chez Capricci, puis avec plein de concerts dont on dira deux mots tout à l'heure. Gabriel Bianco. Thank you. Merci à Gabriel Bianco qui nous jouait cette sonate Kirkpatrick 53 de Domenico Scarlatti. Cette pièce-là, eh bien, écoutez, vous la jouerez peut-être pas en concert, mais en tout cas, elle est au disque. Les concerts, eux, ce sera du 14 au 25 juillet au festival Musique en Côte de Nacre à Courseulles-sur-Mer. Il y aura des concerts et des masterclass que vous donnerez. Et puis le 26 juillet, vous serez, Gabriel, au festival Musique au cœur de la tapisserie. C'est à Felletin avec le Quatuor Eclis. Alors le Quatuor Eclis, si je ne me trompe, c'est votre création. Venez vers moi parce qu'il faut qu'on laisse installer la suite du programme. Le Quatuor, donc.
Donc, bah, c'est un petit peu une aventure qu'on a démarré avec trois amis, tous issus du CNSM, puisqu'on était, voilà, on s'est connus pendant plusieurs années, plus dans les couloirs ou en dehors du CNSM,
et une dans les cafés, vous voulez dire sans doute, hein.
Voilà, ou autre. À la fin de notre cycle, on s'était retrouvés tous les quatre, et on s'est dit bon bah, on se donnera des nouvelles et on se reverra. Et en fait, on fait jamais ça après les études, on se dit toujours ça et puis on se revoit jamais. Et on s'est dit voilà, plutôt que de se dire ça, on va créer un quatuor et tenter, voilà, essayer de faire quelque chose avec. Donc ça fait 3 ans maintenant qu'on joue ensemble. On a bien sûr, on joue les répertoires originaux pour le quatuor, mais également beaucoup d'arrangements. Donc ça sera la nature de notre prochain disque qui est composé uniquement d'arrangements de musique française.
D'accord. Vous avez déjà prévu un disque à 4 guitares, c'est quand même pas évident parce que c'est exactement les mêmes instruments. Comment vous partagez les... Je sais pas, il y a un soprano, une basse par exemple ?
Alors justement non, c'est un petit peu la grande caractéristique du quatuor de guitare, c'est que comme on a chacun le même instrument qui a un ambitus assez large et qui est un instrument assez riche puisqu'on peut faire à la fois la basse, l'accompagnement, la mélodie, et on essaie justement dans les arrangements que tout le monde fasse tout à un moment donné, donc travailler un petit peu sur l'aspect concertant de la formation sans que chacun soit cantonné à son seul registre.
Et le répertoire, donc, c'est plutôt du classique ou vous allez vers d'autres choses? Quand on dit plusieurs guitares ensemble, immédiatement, on va vers le flamenco ou d'autres choses comme ça, non?
Alors, on essaie d'avoir une large gamme de styles. Évidemment, la musique populaire, c'est un aspect important du répertoire de la guitare. Donc, on joue, bien sûr, des pièces qui sont issues de ce répertoire, mais pas seulement. On a envie aussi de jouer des grandes œuvres du répertoire classique, mais de les arranger. Donc, évidemment, ça change un petit peu. Voilà, pour les puristes, ça change un petit peu la vision de l'œuvre.
Merci à vous en tout cas. C'était Gabriel Bianco.
France Musique.
Il est midi 17, vous écoutez bien le magazine live avec notre deuxième partie de programme, l'ensemble des Cellis. Elles sont 5, elles sont installées, elles nous chantent. Alors là, il faut que je parle doucement quand même, puis qu'on se... réserve un petit peu quand même, qu'on rentre dans une forme d'intimité, parce que c'est la musique d'Hildegard von Bingen qu'elles nous interprètent toutes les 5.
Thank you.
L'ensemble d'Etchelis avec Estelle Nadeau, Caroline Tarit, Jeannie Demey, Lucille Girardot et Laurence Brisset nous interprétaient successivement une monodie d'Hildegard von Bingen, nos Splendidissima Gemma, et puis un motet anonyme au Homo des Pulveri. Eh bien, c'est Laurence Brisset, la patronne, qui va parler de nous tous. Bonjour Laurence.
Merci de ne pas dire la tenancière.
Directrice musicale, j'aurais pu dire, oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est difficile de dire directrice musicale parce qu'en fait, vous êtes à l'intérieur du groupe et vous chantez avec tout le monde. Donc en fait, vous faites partie. Vous tenez juste le tactus, c'est comme ça qu'on dit ?
Voilà, c'est ça. Je donne le tactus.
Je dis juste, c'est comme important, le tactus, quoi, c'est la mesure,
ça,
en fait.
Ça peut être utile.
Ça peut être utile pour être ensemble. Alors, vous venez de nous chanter ici une musique, donc on avait de la monodie d'un côté, quelque chose de plus polyphonique de l'autre. J'ai dit tout à l'heure en ouverture d'émission qu'on allait remonter jusqu'au XIIIe siècle, mais je me trompe, Hildegard, c'est encore avant, non ?
Oui, c'est le XIIe. Oui. C'est le XIIe.
C'est fascinant, chanter cette musique, une musique si ancienne et si proche, on le sent, de nos racines spirituelles.
Oui, oui, c'est une aventure, mais c'est une aventure vers l'intérieur de soi-même. Et c'est vraiment une musique extraordinaire, comme beaucoup de musique au Moyen-Âge, parce qu'en fait, on a une idée très, très restrictive de ce qui pouvait se passer. Il y a 1000 ans de musique, et le XIIe siècle, c'est un siècle extraordinaire, et Hildegard en particulier est une femme fantastique.
On a souvent longtemps chanté la musique médiévale sur des textes transcrits, réécrits, avec une clé de sol et tout ça. Vous, non. Vous chantez en notes carrées, enfin en eum, quoi.
Oui, oui, oui. On essaye de partir le plus possible des sources, parce que il y a dans la graphie beaucoup d'indications qui peuvent nous guider vers la compréhension de cette musique. Et si on s'intéresse au passé, c'est aussi pour mettre le présent en perspective et interroger tout ce qui peut nous permettre d'aller de la notation du son à la réalisation du son.
Parce qu'on ne se rend pas compte, ça semble naturel, mais en réalité, il y a un monde entre une notation et un son musical.
Oui, la notation, c'est une trace. Ni plus ni moins, donc c'est pas une réalité objective. Ça donne des indications, mais après il faut se débrouiller et il faut recouper ça avec. Il faut nourrir ça de beaucoup de curiosité, interroger beaucoup de gens, de savants, voilà.
Et puis après se mettre à chanter l'ensemble des cellis à nouveau dans Ave Miles, un motet anonyme lui aussi. L'ensemble des cellistes dans cette Ave Miles, un motet anonyme. Elles vont enchaîner tout de suite avec la dernière partie de leur programme, Reine de Pitié. C'est un anonyme à nouveau, je crois qu'il faut changer un petit peu de formule. Voilà, c'est ça, il y en a une qui s'écarte. On change un peu, mais la musique continue. Vous êtes toujours en direct du studio 107 de la Maison de Radio France, l'ensemble des cellistes.
Oh, darling.
Bravo aux membres de l'ensemble d'Etchelis, Estelle Nadeau, Caroline Tari, Eugène Demey, Lucille Girardot et donc vous, Laurence Brisset, vous nous interprétiez ici. Alors, c'est une musique qui date de quand, là? Parce qu'on a fait du chemin, j'ai l'impression, historiquement, oui, depuis le Degarde. Hein.
Oui, on a fait du chemin, on a franchi deux siècles, là, allègrement, ouais, pour aller dans un motet anglo-normand, isorhythmique et rétrograde, si vous voulez des précisions.
D'accord, c'est-à-dire qu'en termes d'écriture, c'est très savant, c'est ça?
C'est très savant en termes d'écriture et c'est très ludique et ça parle toujours de la même histoire, c'est-à-dire de l'importance théologique de la femme, soit parce qu'elle est la responsable de la faute, soit parce qu'elle est responsable, entre guillemets, de la rédemption. Mmh. Et de cette chose qui se retourne, Eva, qui devient Ave, donc la faute qui devient... Voilà. Et ce motet-là se lit dans les deux sens. À un moment, il dit de Marie qu'elle est Ève, la retournée, et la musique repart dans l'autre sens.
Parce que c'est une musique, évidemment, on le sait pour Jean-Sébastien Bach, mais pour toute la musique qu'il y a avant, qui est profondément liée, évidemment, non seulement à la spiritualité, mais aux textes religieux, et puis à des questions théologiques profondes.
Oui, oui, oui. C'est l'esprit, enfin, l'idée de laïc n'existe pas encore.
Oui, c'est ça. Oui, c'est... Alors, votre dernier disque, Adetchelis, il est paru il y a 3 mois, déjà, sous le titre, comment on dit, J'aimais.
J'aime,
tout simplement, oui. Mais c'est pas l'affection, hein, c'est le joyau, hein, si on
oui,
veut, pour l'orthographe. Et c'est consacré aussi bien à Hildegard von Bingen qu'Azad Multaka, magnifique compositeur, qui a écrit autour d'Hildegard, finalement, une musique intitulée Ubi Est, mais ça me fait plus que ça, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des pièces qu'il avait retouchées aussi dans ce disque, non?
Oui, oui, tout le programme est travaillé avec Zan Multaka, et la première pièce du disque est une pièce de lui, qui convoque des voix invisibles. Après, il y a les pièces de Hildegard dans lesquelles Zad intervient, brode, mais des incisions, des échos, des choses assez fines. Au départ, on ne s'en rend pas tout de suite compte. Et puis, petit à petit, il intervient de plus en plus et on arrive à sa pièce. Mm-hmm. C'est vraiment un beau voyage.
Et ce qui est marrant surtout, c'est qu'à travers ce disque-là, on en a bien compris avec toutes les musiques que vous faisiez, qu'il y a des choses très différentes, de la monodie, qui exige techniquement un certain type de collectif, hein, dans un groupe, et puis la polyphonie, et puis la musique aussi avec de l'électronique, parce que c'est le cas chez Zad. C'est-à-dire, tout ça vous permet en plus, du point de vue de la technique vocale, d'être sur des modes très diversifiés.
Oui, mais là, on a vraiment travaillé avec Zad. Il y a une chose qui est très importante aussi pour nous, c'est l'acoustique. Donc, on travaille avec le lieu qu'on met en vibration. Et donc, on a vraiment réfléchi à tout ça avec Zan Multaka. Et il a écrit et composé sur des textes de Hildegard. Et c'est comme... Enfin, il faut l'écouter, mais c'est un peu comme si les lieux avaient gardé la mémoire d'un écho, mmh, et que sa musique permettait de réentendre des choses et de re-questionner le présent.
Donc vous entendez du coup et vous chantez cette musique un peu différemment à la lumière de cela, peut-être. Oui. Enfin, c'est donc le disque, tout le titre J'aime, tout simplement, autour de Hildegard von Bingen et Zad Multaka chez l'empreinte digitale. Je vous ai même pas questionné des projets de concert avec des cellistes dans les semaines, mois qui viennent, pardon,
oui,
Laurence.
Oui, bien sûr, oui. On va chanter plusieurs fois là en Allemagne. Pas mal en dehors de France. On fait une résidence, une grande résidence à Fontevraud aussi. Et on va travailler en Normandie. Là où on est issu de Normandie, on va travailler sur le répertoire normand.
D'accord. Est-ce qu'il y a un répertoire spécifique?
Oui, le répertoire anglo-normand, et puis il y a des manuscrits où il y a Jumièges, à Rouen, il y a des très très belles choses.
Vous pouvez les balader dans les beaux lieux en plus. C'était l'ensemble d'Etchelis. Merci à vous. France Musique. Dernière partie de notre programme, on va aller vers Jean-Sébastien Bach, c'est toujours bon d'entendre ça, une sonate en entier, ils sont 3 pour nous la jouer, ce sont les accents, enfin 3 des membres des accents, dont le chef en chef, si j'ose dire, c'est Thibaut Noëlly qui est au violon, Elisa Joglar au violoncelle, Mathieu Dupuy au clavecin. Thank you. Cette sonate pour violon et basse continue en sol majeur, BWV 1021, comme ça on est complet, de Jean-Sébastien Bach, était interprété par Thibaut Noali au violon, Elisa Joglar au violoncelle, Mathieu Dupuis au clavecin. Bonjour Thibaut.
Bonjour Laurent. Excusez-moi, je parlais.
C'est pas grave mon cher Bob. Cette musique qu'on vient d'entendre là, je me disais en l'écoutant, c'est incroyable, parce que quand on parle de musique polyphonique concernant Jean-Sébastien Bach, c'est pas seulement que les voix s'entremêlent, bien sûr, c'est que tous les instruments, c'est ça qui est miraculeux, on a l'impression que chacun suit sa propre voix, et que l'ensemble construit quand même quelque chose.
Oui, c'est une musique, forcément, on connaît Bach, extrêmement écrite, mais en plus, comme nous expliquait hier Mathieu, c'est un exercice un petit peu de réalisation de basse continue pour de jeunes musiciens, c'est comme un exercice d'apprentissage. Bach écrit exactement la réalisation qu'il veut, elle est très extrêmement détaillée, beaucoup plus que dans ce qu'il écrit en général dans ses œuvres. Donc c'est un petit peu aussi un exercice de basse continue pour les jeunes en apprentissage à l'époque.
Pour tout le monde, Mathieu Dupuis qui était donc au clavecin. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous aurez expliqué à eux, ça veut dire que c'est vous qui commandez ici ?
Non, j'expliquais en ce qui me concerne. Oui, effectivement, les chiffrages sont plus indicatifs que dans beaucoup d'œuvres de Bach. C'est sans doute une œuvre écrite pour ses enfants, quelque chose comme ça.
Ah d'accord, comme ça, une œuvre pédagogique. Mais ils savaient taquiner déjà et le violon et le clavecin et le violoncelle pour jouer comme ça les enfants, non ?
Oui, tout à fait. Et il y a une autre version avec la même basse pour flûte, violon et basse continue. Une deuxième sonate écrite sur la même basse, en fait.
Alors, vous trois, vous êtes un ensemble pas constitué comme tel, vraiment Thibaut Noali, mais vous êtes l'émanation de votre orchestre à vous, les accents que vous avez créés il y a combien de temps ?
C'est tout récent, ça date de l'été dernier, en fait. L'ensemble a été créé au Festival de Beaune, grâce à Kader Assisi et Anne Blanchard, qui s'occupe du Festival de Beaune. Et on a donc participé au récital de Gaël Arquez l'année dernière, la mezzo française. Et on a la chance cette année d'être à partir de cette année en résidence pour 3 ans au Festival de Beaune. Donc cette année, on sera un peu plus nombreux que la dernière fois. On va être une quinzaine de musiciens pour une récréation mondiale d'un oratorio de Nicolas Porpora.
Alors ça, on va parler dans un instant. Une quinzaine, dites-vous, c'est un orchestre vraiment. Est-ce que vous avez besoin de chef ? Est-ce que vous faites le chef ? Ou simplement, c'est l'impulsion qui est donnée par le poste de premier violon ?
Je dirige du violon, exactement. Un petit peu comparable à ce que m'a pu faire Sigiswald, Keuken ou Fabio Biondi, enfin voilà, ce genre de...
C'est l'idée de ce qu'on faisait à l'époque, voilà. Bien sûr. Alors, la création, dites-vous, enfin recréation de Porpora, le triomphe de la justice divine, c'est quoi, un oratorio ou une sorte de... Parce que Porpora, a priori, c'est plutôt l'opéra.
On connaît de plus en plus les opéras de Porpora, notamment grâce à ses élèves, qui étaient Farinelli, Caffarelli, tous les grands castrats napolitains. Mais au début de sa carrière, et d'ailleurs tout au fil de sa vie, il a écrit beaucoup pour la musique d'église, et notamment des oratorios. Là, c'est son premier oratorio, qui est une partition qui a une histoire un petit peu étrange, c'est-à-dire que cette partition a été un petit peu oubliée dans les bibliothèques, surtout parce que la partition a été divisée en deux, c'est-à-dire la première partie de l'oratorio était conservée en Allemagne dans une bibliothèque à Hambourg, et l'autre partie de la partition a été conservée en Espagne dans une bibliothèque. Et c'est un éditeur italien qui, tout récemment, a décidé de refaire une reconstruction et une édition moderne de cette œuvre. Donc c'est grâce à lui qu'on a cette possibilité d'avoir l'impression générale de l'œuvre et de s'apercevoir que c'est une œuvre qui est extrêmement bien construite et extrêmement belle.
Et ça vaut le coup d'aller le voir, vous me le confirmez ?
Oui, je vous confirme.
Vous aurez en plus un très beau plateau, Blandine Stratkevitch qui sera là, Emmanuel de Negri, pour ne citer quels deux. C'est un quatuor vocal, sinon ce qui est un chœur, d'ailleurs, je ne vais même pas regarder.
C'est les solistes qui chantent les ensembles. Il n'y a que 4 chanteurs. Il y a aussi Delphine Gallou et Martine Van Berg. Et en fait, c'est une œuvre qui, pour l'époque, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est qu'elle est très variée. En général, à cette époque, il y a souvent des airs qui s'enchaînent. Et là, dans la partition, il y a des quatuors, il y a des trios, il y a des duos. Enfin, c'est une partition qui est extrêmement variée, extrêmement bien construite.
De musique sacrée, mais par un type qui connaissait tellement la musique d'opéra que fatalement, ça ne pouvait que, quelque sorte, contaminer l'un l'autre. Ce sera donc au Festival de Beaune le 24 juillet, l'orchestre Les Accents sous votre direction, Thibaut Noali. Et pour la première année, donc, vous nous dites bien d'une résidence dans ce festival que, bien sûr, on adore. Le répertoire de l'orchestre Les Accents, c'est entre l'Allemagne et l'Italie. L'Allemagne, on vient de la voir avec Jean-Sébastien Bach. Et bien, on va retrouver maintenant nos 3 musiciens dans la musique de Franco Corelli, côté italien. Donc, cette sonate de l'Opus 5, toujours Elisa Joglar, Mathieu Dupuis et Thibaut Noali. Un petit accord peut-être avant de commencer. Bien évidemment, ça s'impose. Vous savez, c'est la particularité des instruments baroques. Ça se désaccorde tout le temps, même quand on a fait des copies modernes. Alors, ça faudrait m'expliquer un jour quand même. Enfin, bon, c'est comme ça. Bref. Les membres des accents dans la musique de Corelli pour France Musique et le Studio 107. Musique Bah, Thibaut, moi je me disais une sonate, il faudrait un mouvement lent, il faudrait quelque chose, c'est trop court ça.
Bah, on, à cause du timing, on a été obligé de couper.
Ah, c'est pour ça, d'accord. Je me disais que Corélie nous avait peut-être inventé quelque chose d'autre, une nouvelle forme dans ses fous. Bon, en tout cas, c'est très bien quand même, cette sonate en do majeur. La numéro 3 de l'Opus 5. Je n'ai pas salué Elisa Joglar qui était pour nous au violoncelle. Bonjour Elisa.
Bonjour.
On va parler un petit peu de votre actualité à vous, parce qu'il n'y a pas évidemment que les accents dans la vie, mais aussi l'ensemble Lyriade qu'on connaît depuis quelques années, parce que bah, c'est un chanteur et un très beau chanteur qui l'a créé, cet ensemble.
Oui, c'est Cyril Obiti avec Léonard de Recondo qui ont créé cet ensemble et que je fais partie depuis les origines.
Et donc un disque qui est déjà enregistré, vous m'avez dit, ou est en bon projet?
Bah, c'est déjà fait et il n'est pas sorti encore. Donc on est dans les premières écoutes, de ce qu'on a fait en mois de mai. Et ça va être très beau. Cyril assume très bien ses répertoires, c'est magnifique ce qu'il fait.
Ouais. Ah oui, c'est ce qu'il fait dans tous les répertoires, mais particulièrement celui-là. C'est quel répertoire d'ailleurs, on ne l'a pas dit? Charpentier, c'est ça?
Voilà, c'est des airs de cours de Charpentier. Et ça va sortir sur la maison des disques Glossa, et bientôt.
Bon, on attend ça avec grande impatience, parce que nul doute que ce sera un très beau disque. Du côté de Mathieu Dupuis, alors on sait qu'il fait du clavecin répertoire 18e siècle, il vient de nous le montrer magnifiquement, mais enfin, il n'y a pas que ça non plus, hein. On peut faire des œuvres plus récentes au clavecin, Mathieu.
Oui, là, il va être question donc d'un récital d'œuvres de François Bernard Mache, qui a beaucoup écrit pour clavecin, donc ça va être... Alors,
rappelons que François Bernard Mache est un compositeur bien vivant.
Tout à fait, il va avoir 80 ans, donc il y a un hommage qui lui est rendu au festival Messiaen au Pays de la Meije. Donc ce sera un concert uniquement de ses œuvres, clavecin et son enregistré, 4 ou 5 pièces, Corvard, Guntur Madou, Thémis, etc. Deux créations parmi, voilà.
Et ça doit être un sacré programme, parce que dites-vous, un programme monographique sur un compositeur, sur un instrument, le clavecin, en plus François Bernard Mache, il n'écrit pas toujours facile, non?
C'est très complexe. C'est un programme assez lourd, effectivement, de jouer tout ça. Mais c'est une belle expérience. Je ne connaissais pas toutes ces pièces, en fait. Effectivement, il a écrit beaucoup pour le clavecin.
Et pour Elisabeth Renesca, bien sûr, hein, celle qui lui a commandé, sinon tout, de moins une grande partie de ses pièces.
Voilà, c'est ça. La majorité des pièces ont été écrites pour elle, et puis sans doute les dernières étaient en attente.
Et ce sera donc le 17 juillet au Festival Messiaen, au Pays de la Meije, ce récital autour de François Bernard Mache, de Mathieu Dupuis. Et puis vous concernant enfin Thibaut Noaly, quelques dates encore. Vous serez en solo les 8 et 9 août à la Tarentaise, enfin à Tarentaise, c'est comme ça qu'on dit. Hein, ça, hein. Solo, enfin, c'est le même programme que le disque que vous avez fait il y a 2 ans, c'est ça?
Baroque allemande pour violon seul, le 17e, 18e.
Ouais. C'est une période très riche, hein, on va dire, parce qu'on se dit ce violon solo, il n'y a que Bach qui a fait. Non, il n'y a pas que Bach qui a fait. Les musiciens du Louvre, alors ce sera le 21 août, et c'est rare quand même, c'est normal, on le comprend, que Marc Minkowski laisse son ensemble, il vous laisse à vous qui êtes le premier violon des musiciens du Louvre. Hein.
Exactement, oui. Depuis quelques années, il y a de plus en plus de projets, parce que je dirige du violon aussi, plutôt des récitals de chanteurs, et là c'est donc un récital avec Blandine Saskiewicz, excusez-moi, c'est difficile à prononcer.
Vous n'êtes pas avec les noms aujourd'hui. Hein.
D'air pour Farinelli au festival de Montmorillon. Voilà.
Très bien. Et puis enfin, dernière date, ce sera en novembre à la salle Gaveau. C'est un peu loin, on aura l'occasion d'en parler, mais on le dit juste comme ça. C'était les membres de l'orchestre Les Accents. Merci pour eux. Cette émission a été préparée par Raphaël Dor et c'était la dernière de Raphaël. On est très émus. Merci pour tout, Raphaël. Antoine Courtin était à la réalisation et l'excellente équipe technique du jour, Bruno Mourlan, Stéphane Touvenin et Jean-Baptiste Etcheparbord.